Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à depuis le 18 juin.
La fête plus dure, là.
Alors là,
c'est
au milieu
d'un
chantier.
Ah, mais il y a un gros pierrier, une espèce de d'arête rocheuse, avec plein de névés autour de nous. Quelques nuages, on voit l'aiguille du midi dans les nuages à gauche, là-bas. On est déjà à 2800 et quelques mètres.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Ce matin, je vais vous transporter vers le Mont Blanc. Le Mont Blanc, tout à la fois désiré et fragile, de plus en plus désiré. 25 000 personnes en tentent l'ascension chaque été, entre juin et septembre, 250 par jour. Mais le Mont Blanc aussi, de plus en plus fragile, du fait tout simplement de cette abondance de fréquentation, mais aussi et surtout de l'épreuve du réchauffement climatique. Celui-ci entraîne en effet la déstabilisation des glaciers suspendus dont la chaleur interne fragilise l'adhérence au seuil rocheux. Le réchauffement provoque aussi le dégel de la glace qui est présente dans les fissures de la roche dont elle assurait la cohésion. Ces ruptures peuvent être dévastatrices. Le journaliste scientifique Pierre Lehir notait récemment dans Le Monde qu'en janvier 1997, je le cite, « sur le versant italien du Mont Blanc, 2,5 millions de mètres cubes de roche s'étaient détachés de l'éperon de la Brenva, provoquant une gigantesque avalanche qui avait déferlé jusqu'au fond de la vallée et qui avait remonté la pente opposée, tuant deux skieurs. » Fin de citation. Cette instabilité croissante est en passe de modifier profondément tout à la fois l'équilibre des massifs et le regard des alpinistes sur eux, tout comme celui des touristes alentours. Mon invité ce matin est Antoine Debecq, professeur d'histoire du cinéma à l'École normale supérieure, qui est aussi un randonneur confirmé et qui vient de publier un ouvrage inattendu intitulé « La traversée des Alpes, essai d'histoire marché », marché M-A-R-C-H-E-E. Avec lui, au moment où commence la saison des escalades, nous allons parler de l'histoire de l'alpinisme en évoquant les permanences et les mutations depuis les temps reculés jusqu'à nos jours de l'approche des montagnes par les hommes entre répulsion et fascination.
Les gamins de mon village ne jouent pas à chat perché comme tous les gosses de leur âge. Ils contemplent les sommets, disant je suis vrai mon père, c'est le plus fort du hameau. Je veux retrouver mon frère puisqu'il est encore là-haut. Sommet toujours blanc, balayé par la neige et le vent. Quand le ciel devient bleu sur tes flancs, comme il fait chaud, le soleil brûle mes yeux et mord ma peau. La montagne est une fille, une garce au cœur glacé. Tôt ou tard, elle prend la vie du garçon qui l'a touchée. Alors cette courtisane de ses flancs qui la grippa fait éclore une gentiane en mémoire de son. Sommet toujours blanc, balayé par la neige et le vent. tes neiges éternelles à jamais couvrent tes flancs et je sens que tu m'appelles monstre puissant. Et moi de la vallée vers toi je suis monté un jour comme attiré par tes glaciers profonds. Sommet toujours blanc, balayé par la neige et le vent. Combien as-tu gardé en te refermant sur eux de garçons qui t'affrontaient en amour.
Antoine Debecq, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre une chanson de Mick Michel, Berthelat et Fontana, interprétée par Mick Michel en 1952, « Sommet toujours blanc ». Je l'ai choisie parce qu'elle me paraît ramasser, au début de notre conversation, tout ce qui peut être à la fois l'attrait de la montagne et l'inquiétude qu'elle suscite. Au fond, il y a une séduction de la garce qui peut être funèbre, une blancheur ambiguë, ambivalente. C'est ce que nous allons, je crois, trouver ensemble ce matin.
C'est vrai que la montagne fascine, toujours fasciné, notamment la haute montagne, puisqu'il y a cet aspect de blancheur, cette sorte de virginité quasiment sacrée, comme ça, surtout évidemment dans le soleil, par grand beau temps. C'est un espace qui attire, qui met de loin. Hein. Pendant très très longtemps, évidemment, on admire cela de loin. Et puis, cette même montagne, par temps d'orage, par exemple, attire à ce moment-là la foudre. C'est toujours un lieu sacré, mais presque un peu démoniaque. Hein. C'est quelque chose qui est très frappant dans les descriptions de la haute montagne, et notamment du Mont Blanc. Hein. C'est tout ce qu'on peut y projeter pendant longtemps, je dirais du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, y projeter de désir et de peur.
Et puis elle peut saisir et elle peut tuer. Je donnais les chiffres de la fréquentation actuelle. On peut aussi signaler qu'il y a eu 74 morts et 180 blessés de 1990 à 2011. Vous avez échappé à ces drames, vous-même, Antoine Debecq. Vous avez grimpé le Mont Blanc ?
Moi, je suis plutôt un randonneur, mais pour me donner un défi. En septembre dernier, j'ai d'abord fait le tour du Mont Blanc, ce qui correspond donc plutôt à ma passion marcheuse.
Pour jauger le défi.
Le TMB, le tour du Mont Blanc, c'est ce qu'on appelle le best walking, le grand succès, le plus grand succès mondial de la marche.
Hein, ici, nous parlons français.
Voilà, exactement. Il faut parler français. Et donc, il y a près de 50 000 personnes qui marchent autour du Mont Blanc pendant l'été. Mais donc, il y a aussi beaucoup de monde qui tente de monter dessus. Et moi, j'ai voulu faire cette expérience. J'ai donc pris un guide. Et le 19 septembre dernier, à 8h40, j'étais
précision
en haut du Mont Blanc. Il y a toujours cette espèce de fétichisme du nombre de minutes qu'on reste au sommet. C'est quelque chose qu'on trouve dès les premières ascensions du Mont Blanc. Dès 1786, on sait exactement à l'heure à laquelle sont arrivés les premiers et combien de temps ils sont restés en haut.
Précision qui concerne donc à la fois Horace Bénédicte de Saussure, qui a vraiment inauguré la découverte du Mont Blanc, et Antoine Debecq plus récemment dans cette esquisse d'égo-histoire, si je comprends bien. Mais au fond, vous inaugurez un genre nouveau avec votre livre. Vous faites se rejoindre d'une manière inédite l'histoire et la géographie. C'est une donnée de l'enseignement en France. Ce rapprochement n'existe pas forcément ailleurs. Mais tout à coup, vous montrez à quel point on peut en faire un mixte fécond.
J'ai voulu raconter l'histoire d'un lieu, les Alpes, et à travers l'histoire d'un chemin. Et donc, évidemment, la géographie était en quelque sorte l'objet même de mon histoire. Et donc, raconter ce chemin m'a amené à la fois, je dirais, à le faire. Il fallait le parcourir, il fallait en quelque sorte faire l'histoire avec les pieds. Je n'imaginais pas faire autre chose que cela, c'est-à-dire mettre à l'épreuve un petit peu mon objet d'histoire en le parcourant pendant un mois de marche. Et en même temps, donc, arriver à creuser poser ces différentes strates historiques hein, qui sont celles d'un chemin qui traverse les Alpes, puisque toute une série de marcheurs l'ont emprunté à différentes époques, hein, du Moyen-Âge à nos jours, des pèlerins aux randonneurs, en passant par les bergers, par les colporteurs, par les contrebandiers. Et donc, au cœur de ce chemin, hein, je dirais plutôt après son premier tiers, eh bien voilà, il y a le Mont Blanc.
Et donc, vous avez été, dans votre marche, entouré de fantômes, et à qui nous allons essayer de rendre vie ce matin.
Parmi ces fantômes, il y a par exemple tous ces dragons. Hein. Pendant longtemps, on a imaginé que le Mont Blanc, donc, qui était un lieu sacré mais ambivalent, c'est-à-dire c'est un lieu à la fois respecté, admiré, et en même temps un lieu extrêmement craint, un lieu démoniaque. Et les habitants et les principaux défenseurs de ce lieu étaient les dragons. Et on trouve hein, dans l'iconographie, par exemple, depuis la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle, beaucoup d'esquisses un petit peu de ces animaux mystérieux et démoniaques. Hein.
Qui interdisent au fond la montagne aux gens ordinaires. Voilà. Je pense à une belle nouvelle valaisanne de l'écrivain suisse Ramuse, Les âmes dans le glacier, une nouvelle de 1913, où il peint une vieille femme qui s'est installée dangereusement dans une maison au bord d'un glacier. Dès la première nuit, elle entend des gémissements, elle aperçoit des formes exsangues. Ce sont les âmes qui font leur purgatoire sur le glacier et qui ont pris l'habitude la nuit de se réfugier dans la maison qu'elle occupe désormais pour avoir un peu de chaleur et qui attendent le jour au fond des crevasses. Et évidemment, la vieille dame devient amie de ces âmes, etc. La suite est à retrouver dans la nouvelle de Ramuse.
C'est tout à fait représentatif des craintes hein, qu'inspire la haute montagne et particulièrement, je dirais, les glaciers. Hein, puisque les glaciers, c'est un espace qui est extrêmement mouvant, en fait. Hein, et donc, qui se prête aussi bien aux apparitions, qui se prête aussi à la peur. Puisque le glacier, à certains moments, à la fin du XVIIIe siècle, hein, après le petit âge glaciaire, il allait presque jusqu'à Chamonix. Hein, donc, il y avait une sorte de concurrence entre les habitants de la vallée et puis ce glacier qui descendait de plus en plus proche d'eux. Et c'était quelque chose qui, évidemment, était une sorte de signe du destin.
La légende à cet égard correspond à ce petit âge glaciaire que, dans son histoire du climat, Emmanuel Leroy-Ladurie a souvent décrit.
Ils sont extrêmement rares, les hommes de l'époque qui s'intéressent ou qui avouent même une admiration pour la haute montagne. Hein. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les textes sont très peu nombreux. Le principal, je trouve, c'est un texte du milieu du XVIe siècle qui est extrêmement beau, qui s'appelle « Lettres sur l'admiration de la montagne » de Conrad Gessner. La manière dont ce texte commence, c'est par une sorte d'excuse. Conrad Gessner, qui est un grand humaniste, explique son attrait pour la montagne comme une sorte de folie. Et donc, voilà, il s'en excuse presque auprès du lecteur et il raconte en fait une ascension au mont Fracmont en Suisse. Et voilà, c'est un des très très rares témoignages avant le milieu du XVIIIe siècle où l'image de la montagne, l'image notamment de la mer de glace et du Mont Blanc va complètement changer. Mais jusqu'alors, il est sûr que c'est un espace qui est d'une certaine manière préservé par cette sacralité à la fois virginale et démoniaque.
On fait venir des évêques pour exorciser le lieu, c'est dire à quel point il est tissé de maléfices aux yeux des contemporains. Et alors, on arrive en effet à ce tournant intéressant à comprendre et analyser, qui est le tournant du XVIIIe siècle, où la montagne fait en quelque sorte irruption dans la société européenne, dans la culture européenne. Il faut que vous nous expliquiez cela.
C'est d'une part, je dirais, une forme d'utilité de la montagne.
Hein, c'est-à-dire ?
Finalement, il est beaucoup plus facile de traverser les montagnes par la hauteur, par les cols, que de la traverser par les vallées. Hein. Les vallées, surtout sous l'Ancien Régime, sont des lieux à la fois dangereux. Il y a des crues importantes, il peut y avoir des avalanches.
Mais
c'est aussi des lieux très mal fréquentés. Il y a des brigands. Et puis, il y a aussi beaucoup de péages. Hein. Il y a beaucoup de points où il faut payer pour avancer. Alors que les cols sont laissés beaucoup plus dans une forme de sauvagerie. Il y a des chemins qui sont tracés assez tôt pour les grands cols alpins. Et donc, très vite, ce qu'on appelle les caravanes de mulets, hein, les chemins muletiers, vont être empruntés par les marchands.
Donc, motif économique, mais ce ne sont pas les seuls.
Oui, il y a aussi les pèlerins, par exemple, qui vont aller en Italie en passant, en traversant les Alpes et en empruntant ces grands cols, comme le col du Mont-Cenis, par exemple, qui est un de ces hauts lieux de l'apprivoisement de la haute montagne. Hein. Voilà, ce sont des lieux qui sont toujours très craints. D'ailleurs, ces chemins sont ponctués de chapelles. On y vient pour espérer et pour provoquer la bénédiction et le bon chemin. Et en même temps aussi, on y vient aussi pour remercier. Hein. On y met beaucoup d'ex-voto pour remercier Dieu d'avoir permis un passage possible. Donc ce sont des lieux qui sont préservés dans la haute montagne et qui appartiennent en quelque sorte à la religion et qui vont permettre finalement ce qui est très surprenant quand on regarde l'histoire des Alpes, hein, c'est le nombre de migrations. Hein. Les Alpes sont vraiment un espace qui est très traversé. Hein. Et donc ce n'est pas du tout un espace qui est isolé du monde, du reste de l'Europe. Au contraire, c'est un espace qui va être très vite traversé, évidemment par des marchands, par les colporteurs, par les contrebandiers aussi, et puis aussi par tous ces marcheurs que peuvent être les pèlerins, les bergers, voilà, tous ceux qui font métier de marcher à travers l'Alpe. Donc tout cela représente un premier apprivoisement de la montagne.
Et simultanément, ou peut-être y a-t-il un phénomène de cause à effet, je ne sais, la littérature aussi, autant des philosophes s'en emparent. Et il y a un homme qui vient jouer un rôle important, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui est déjà un grand promeneur, les rêveries d'un promeneur solitaire. Écoutez cet extrait de la Nouvelle Héloïse, 1761. Lu par Jean Negroni dans les Samedis de France Culture, le 22 mai 1971.
C'est une impression générale qu'éprouvent tous les hommes, quoiqu'ils ne l'observent pas tous, que sur les hautes montagnes où l'air est pur et subtil, on se sent plus de facilité dans la respiration, plus de légèreté dans le corps, plus de sérénité dans l'esprit. Les plaisirs y sont moins ardents, les passions plus modérées. Les méditations y prennent je ne sais quel caractère grand et sublime, proportionné aux objets qui nous frappent. Je ne sais quelle volupté tranquille qui n'a rien d'âcre et de sensuel. Il semble qu'en s'élevant au-dessus du séjour des hommes, on y laisse tous les sentiments bas et terrestres et qu'à mesure qu'on approche des régions éthérées, l'âme contracte quelque chose de leur inaltérable pureté. On y est grave sans mélancolie, paisible sans indolence, content d'être et de penser. Tous les désirs trop vifs s'émoussent. Ils perdent cette pointe aiguë qui les rend douloureux. Ils ne laissent au fond du cœur qu'une émotion légère et douce, et c'est ainsi qu'un heureux climat fait servir à la félicité de l'homme les passions qui font ailleurs son tourment. Je doute qu'aucune agitation violente, aucune maladie de vapeur pût tenir contre un pareil séjour prolongé. Et je suis surpris que des bains de l'air salutaire et bienfaisant des montagnes ne soient pas un des grands remèdes de la médecine et de la morale.
Alors Antoine de Bec, c'est un de vos grands prédécesseurs, un randonneur majeur que Jean-Jacques Rousseau.
Oui, Rousseau est évidemment le père de la randonnée. À la fois, je dirais, parce qu'il pratique cet exercice et spécifiquement dans la montagne, puisqu'il est lui-même de là, et puis il la parcourt sans cesse. Hein,
Suisse.
Depuis sa plus tendre enfance, il a cette habitude de marcher dans l'Alpe, de la traverser. En quelque sorte, il s'y sent bien, et c'est ce qu'il dit dans ses textes. Hein,
La vie ambulante est ce qu'il me faut.
Puis aussi cet air pur, subtil, qui lui donne à la fois une forme de légèreté dans le corps, et puis cette sorte de sérénité aussi qu'il trouve dans la marche en montagne qui lui permet, je dirais, la méditation. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour Rousseau.
C'est neuf. Les gens de la Renaissance, les humanistes, n'y auraient guère songé.
C'est une vraie mutation de civilisation. On est à ce moment-là dans les années 1760, 1770 et la vision de la montagne et de la haute montagne bascule désormais vers quelque chose qui est une forme donc de pureté, de légèreté, qui devient à la fois un bénéfice pour le corps, un bénéfice médical, c'est une médecine, et en même temps qui devient aussi une forme de pensée. Il y a chez Rousseau cette idée qu'il ne Il le dit, je ne puis méditer qu'en marchant. Marcher dans la montagne, c'est à la fois le bénéfice du corps et le bénéfice de la pensée. Et ce qui est évidemment décisif chez Rousseau, c'est de l'écrire cela. C'est-à-dire qu'il est le premier à décrire et à écrire le bénéfice de la marche en montagne. Et il sera célèbre pour ça, aussi bien dans ce texte qu'on a entendu de la nouvelle Héloïse que dans les rêveries du promeneur solitaire ou les confessions. Les descriptions de marche deviennent avec Rousseau un genre qui va avoir une destinée extrêmement féconde et qui va faire du Mont Blanc une sorte de passage obligé de la littérature et de la description du sublime, du bien-être et à la fois de la beauté et de la capacité du corps.
On va voir cela évidemment au moment du romantisme, mais restons au XVIIIe siècle, puisqu'on y trouve un autre ressort, me semble-t-il, dans le désir à présent de conquérir les Alpes et en particulier le Mont Blanc, c'est la recherche scientifique.
Il est vrai que le Mont Blanc devient une sorte d'espace de recherche, de laboratoire à ciel ouvert. Déjà, mesurer la hauteur de ce lieu mythique qu'on n'a jamais jusqu'alors cherché à mesurer vraiment. On n'a pas idée de l'altitude du Mont Blanc avant la fin du XVIIIe siècle. Ce n'est pas une question qui se pose. Tout d'un coup, cette question se pose. Voilà, il y a une forme de raison qui s'empare de la nature. Il faut pouvoir mesurer, il faut pouvoir faire ses expériences scientifiques. Et donc, toute une série de scientifiques, dont le plus célèbre est Horace Bénédict de Saussure, hein, le Genevois, va mener toute une série d'expériences à partir des années 1760. C'est lui qui va en quelque sorte lancer la course au Mont Blanc. Il y a une compétition qui est ouverte par Saussure, d'abord parce qu'il la finance. Hein, c'est-à-dire que Saussure à la fois veut monter lui-même en haut. Pour cela, il sait qu'il ne peut pas le faire tout seul. Et pour cela, il lance donc une compétition qu'il finance entre les habitants de Chamonix.
On disait Chamonix à l'époque, oui.
L'orthographe n'est pas fixée encore de ce lieu, elle va être fixée au 19e siècle. Et donc, ces habitants sont à la fois des montagnards, mais aussi des cristalliers. Hein. Ils vont chercher des cristaux, peut-être ce qu'il y a de plus précieux dans la montagne, ces cristaux de glace qui se revendent très cher. Ce sont aussi des chasseurs de chamois. Ils vont, en quelque sorte, devenir des guides. C'est-à-dire que cette compétition lancée par Saussure dans les années 1760 va créer une véritable émulation dans la vallée de Chamonix et va former toute une série de montagnards qui vont devenir des guides, dont le plus célèbre, le plus emblématique, hein, c'est la famille Balma, hein, la Jacques Balma, qui va à plusieurs reprises, il va lancer une marche vers le Mont Blanc qui n'aboutira finalement que relativement tardivement, puisqu'il faut une vingtaine d'années, hein, pour conquérir le Mont Blanc. Il s'agit de trouver le bon chemin. Balma va trouver ce chemin qui ne sera pas la voie classique du Mont Blanc, puisque c'est un chemin qui est peut-être un des plus difficiles, hein, par le glacier des Bossons et le dôme du Goûter.
Ce n'est pas par là que vous êtes passé ?
Non, on ne passe plus par là, puisque le glacier des Bossons est très dangereux. Il y a beaucoup de séracs, notamment. C'est un glacier très, très instable. Balma a cette chance, hein, de pouvoir, au cours de multiples expéditions, de multiples courses, réussir à trouver une voie et en revenir aussi, hein, évidemment. Et donc, ce n'est que le 8 août 1786, hein, que Balma mène la course décisive,
avec le
docteur Michel Paccard, qui lui est un homme qui s'est mis aussi à la montagne, mais qui regarde ça d'un petit peu plus loin. C'est un médecin et qui représente bien cette alliance, hein, entre d'un côté, je dirais, les montagnards, hein, les montagnards du cru, et puis de l'autre, les notables, le souci scientifique aussi de Chamonix.
Oui. Donc ce n'est pas Saussure, contrairement à ce qu'on croit souvent, qui a été le premier.
Oui, la course d'août 1786 est décisive, puisque au bout de leur peine, à 18h23 le lendemain, le 9 août, Balma et Paccard atteignent le sommet. Ils vont y rester 33 minutes. Alors il y a évidemment toute une série de récits, hein, qui accompagnent, puisque c'est un exploit qui est salué en tant que tel, hein, par toute l'Europe qui suit cela. Hein, c'est une véritable compétition à l'échelle internationale.
Avec aussi, comme toujours, des désaccords, des des controverses.
Bien sûr,
oui. Qui est-il arrivé? Comment est-ce qu'il... Ce qui annonce tout à fait ce qui se passera avec Annapurna, premier 8000. On a discuté, savoir si Maurice Herzog avait vraiment été le premier à y être, est-ce qu'il était monté jusque-là, ou bien l'Everest, plus encore, avec Hillary et le Sherpa Tenzing. Mais là, il n'y a aucun doute.
Là, il n'y a aucun doute. Il y a un récit qui est corroboré par les deux hommes. Le docteur Packard est blessé, il est ennuyé par des graves soucis aux yeux. Hein. Il a été brûlé, les yeux ont été brûlés par la neige, par les glaciers. Balma va parvenir seul au sommet vers 16h, on pense, et il va rechercher quelques hectomètres plus bas le docteur Packard, qu'il parvient à monter au sommet, et donc ils vont l'atteindre tous les deux à 18h23. Et ensuite, la descente va leur permettre de dormir vers 23h. Et quand ils reviennent le lendemain, donc le 10 août 1786 à Chamonix, un drame les attend, hein, puisque la fille de Balma, qui était soignée par Packard, est morte pendant la course, hein, morte toute jeune, hein, Judith. Et donc voilà, c'est quelque chose aussi qui lie d'emblée dans l'histoire de l'alpinisme, évidemment, la conquête et le drame. Hein. Et toute la vie de Jacques Balma va être un petit peu poursuivie par cette sorte de destin, de fatalité à la fois, je dirais, héroïque et noire, hein, puisque c'est quelqu'un qui va remonter régulièrement au Mont Blanc. Donc il y remonte d'ailleurs un an après avec Saussure, puisqu'il fait sa troisième ascension avec Saussure en août 1787, où Saussure peut enfin aller au Mont Blanc. Ensuite, Balma va continuer ses ascensions et il va finir par mourir en 1834. Il va mourir dans un autre massif, hein, le massif des Fils, près de Sixt, à la recherche de filons d'argent et de filons d'or. Hein,
la séduction des métaux précieux, comme quoi il y avait peut-être tout de même, enfin, nous ne jugerons pas ici, naturellement, des maléfices du côté de ces sommets. La conquête du Mont Blanc n'est pas pour autant devenue aisée. Et il y a des dates qui sont essentielles, par exemple le moment où les premières femmes viennent conquérir le sommet. Jeune femme qui s'appelait, c'était tout trouvé, Marie Paradis. Et puis 30 ans plus tard, une sorte d'Amazone étonnante qui s'appelle Henriette d'Angeville, qui s'affiche comme la fiancée du Mont Blanc, la fiancée du Mont Blanc. Et voilà ce que transporte Henriette d'Angeville, la fiancée du Mont Blanc.
Un grand cabas bien doublé, dans lequel on pratique de petites poches pour mettre les menus objets qu'on peut avoir sous la main de suite. Un flacon de sel de vinaigre. Un flacon d'eau de Cologne, un immense éventail pour se faire donner de l'air en cas de besoin, un très petit pour s'en donner soi-même, un couteau portant canif, une brosse pour pouvoir se frictionner fortement en cas que la marche provoque de trop fortes démangeaisons, une corne pour les changements de souliers, une petite cafetière à l'esprit de vin pour faire du thé en quelques minutes, ou chauffer un bouillon. Dedans cette cafetière, un flacon d'alcool, une boîte en composition garnie de thé, un briquet fulminant, une deuxième boîte remplie de pommade de concombre pour en enduire le visage et les mains à une certaine élévation et éviter par là les cuissons que donne un froid trop vif. Le calepin obligé pour écrire des notes. Un thermomètre pour juger des variations de froid à diverses époques de l'ascension. Une excellentissime lunette d'approche pour se donner le plaisir de lorgner ceux qui vous lorgnent et de voir le plus loin et le plus net possible les différentes vues remarquables de l'ascension et le panorama de la cime même. Le divin bâton ferré à cornes de chamois. Enfin, un dernier meuble à avoir est un petit miroir, grand comme la main, pour mettre son bonnet dedans. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de féminin dans le bagage de la femme, même pour un voyage au Mont Blanc.
Alors, Antoine de Bec, voilà un Mont Blanc très désiré par Henriette d'Angeville. C'était une archive empruntée à une émission qui s'appelait « La montagne m'a dit » sur France Inter, le 23 décembre 1968.
C'est très intéressant, cette description du premier matériel. C'est quelque chose qu'on on a peine à imaginer. Alors, on peut le retrouver dans un musée, le musée alpin de Chamonix, qui est un petit bijou dans l'ancien Chamonix Palace.
Et qui restitue cet inventaire baroque.
Qui donne à voir ce premier matériel de l'ascension du Mont Blanc. Notamment, on pourra y trouver la chaise à porteurs sur laquelle Janssen se fit hisser au sommet du Mont Blanc.
Janssen, c'était qui?
C'était un de ces scientifiques comme ça qui... Parce que Saussure aussi, Saussure n'était pas absolument capable de monter tout seul, ça c'est sûr, et il a été traîné lui sur un traîneau, donc c'était des expéditions, hein. Il y avait 17 guides qui entouraient Saussure lors de son ascension victorieuse de 1787, hein. Donc, et ces guides mettent au point un premier matériel qui est fait beaucoup d'échelles, de cordes, de bâtons, ce bâton de marche qui permet avec son bout ferré de monter et de s'équilibrer sur les glaciers.
Avant qu'on invente le piolet, qui permet de combiner l'efficacité du bâton et celui de la hache.
Oui, c'est ça. Le matériel va se mettre au point tout au long du 19e siècle. Hein, et ce sont les grands alpinistes anglais, hein, qui vont finir par le mettre au point avec ses chaussures, ses piolets, cette manière de s'encorder, hein, qui va être en quelque sorte la marque classique de l'alpiniste, qui se met au point vraiment presque trois quarts de siècle après les premières ascensions de la fin du 18e siècle.
Et on arrive... au moment de la sensibilité romantique. Alors j'ai le goût de vous faire entendre deux textes. Un de Victor Hugo, enthousiaste, admirateur, rêvant devant la montagne. Et puis un autre de Chateaubriand, un peu antérieur, qui lui répugne à se laisser entraîner par cette mode nouvelle. Il explique qu'au fond, on est mieux à Paris qu'au pied du Mont Blanc.
L'horizon est couronné par une dentelure de sommets couverts de neige, sur la blancheur desquels ressort, isolé et grisâtre, cet obélisque prodigieux du Dru. Quand le ciel est pur, à sa forme effilée, à sa couleur sombre, on le prendrait pour le clocher solitaire de quelque église écroulée, et l'on dirait que les avalanches qui se détachent de temps en temps de ses parois sont des colombes qui viennent s'abattre sur ses frises désertes. Lorsqu'on l'aperçoit confusément à travers le brouillard, on pense voir le cyclope de Virgile assis dans la montagne, et les blancheurs vagues de la mer de glace sont les troupeaux qu'il compte pendant qu'ils passent à ses pieds.
J'ai beau me battre les flancs pour arriver à l'exaltation alpine des écrivains de montagne, j'y perds ma peine. Au physique, cet air vierge et balsamique qui doit ranimer mes forces, raréfier mon sang, désenfumer ma tête fatiguée, me donner une faim insatiable, un repos sans rêve, ne produit point pour moi ces effets. Je ne respire pas mieux, mon sang ne circule pas plus vite, ma tête n'est pas moins lourde au ciel des Alpes qu'à Paris. J'ai autant d'appétit aux Champs-Élysées qu'au Mont-en-Vert. Je dors aussi bien rue Saint-Dominique qu'au Mont-Saint-Gothard. Et si j'ai des songes dans la délicieuse plaine de Montrouge, c'est qu'il en faut au sommeil. Mille toises gravies dans l'espace ne changent rien à ma vue du ciel. Dieu ne paraît pas plus grand du sommet de la montagne que du fond de la vallée. Si pour devenir un homme robuste, un saint, un génie supérieur, il ne s'agissait que de planer sur les nuages, pourquoi tant de malades, de mécréants et d'imbéciles ne se donnent-ils pas la peine de grimper au simple?
Cette archive provient d'une émission de France Inter le 23 décembre 1968. J'ai choisi, Antoine Debecq, de rapprocher ces deux citations parce qu'elles montrent bien que dans ces temps-là encore, il y a une sorte d'ambivalence du regard sur le Mont Blanc, puisque nous consacrons cette émission ce matin à ce Mont Blanc qui est à la fois désiré et fragile à tous les moments.
Oui, c'est vrai qu'il y a une ambivalence, mais on va trouver quand même plus de textes magnifiant cette montagne que de textes se moquant un petit peu comme le fait Chateaubriand ici, de cette mode qui est aussi très vite une mode touristique, hein, puisque Chamonix va devenir le centre d'un tourisme alpin qui va attirer de l'Europe entière des jeunes ou moins jeunes gens qui vont aller admirer la mer de glace depuis le Mont-en-Vert. Tout ce lieu va s'aménager, la compagnie des guides aussi va se mettre en place dès les années 1820-1830. Il y a une forme de première exploitation touristique touristique du Mont-Blanc qui, on le comprend très bien ici, Chateaubriand, est gêné par cette mode qu'il considère comme un peu superficielle.
C'est le temps où, effectivement, cette vogue est croissante, cette vogue du voyage aux glacières de Chamonix. Chamonix prend décidément la première place dans l'ensemble des voyages alpins, très largement.
Très largement, oui, oui. Chamonix est vraiment au centre d'une vogue.
C'est-à-dire le Mont-Blanc.
Le Mont-Blanc, oui, bien sûr. Chamonix se développe, mais Chamonix, c'est le Mont-Blanc. Et donc, on va y trouver à la fois des grands écrivains qui vont, en quelque sorte, faire ce pèlerinage obligé, comme ça, au Mont-Blanc, qui confrontent un peu leurs plumes à ce lieu. Hein. Donc, Hugo, on l'a entendu, mais vous avez aussi Goethe.
George Sand,
Théophile Gautier, Sénancourt, Alphonse Daudet, de façon beaucoup plus ironique, hein, dans Tartarin sur les Alpes. Et puis, c'est une sorte de littérature, un genre littéraire qui se poursuit encore de nos jours avec un écrivain comme ça, Mivelle, par exemple, hein, qui est
aussi
à la fois
dessinateur
et écrivain de l'Alpe, et particulièrement du Mont-Blanc, qu'il aime beaucoup, dont il a fait le tour et sur lequel il est monté à de multiples reprises, comme si ce lieu attirait quelque chose qui alliait en quelque sorte l'écrit et le dessin. Hein. Donc cette double tradition d'écrivain et de peintre. Mais il y a ceux qui font les deux, donc comme Samivelle, et puis comme quelqu'un que moi j'aime particulièrement, qui est Rodolphe Töpffer, au milieu du 19e siècle.
Parlez-nous de Töpffer.
Alors Töpffer est quelqu'un d'intéressant. C'est un pédagogue d'abord.
Hein. Suisse.
Suisse, à Genève. Il a son école. Et il emmène régulièrement, en tout cas plusieurs fois par an, et évidemment l'été, ses élèves. Marcher. Il fait des marches d'une semaine, deux semaines avec sa femme et ses élèves, et il va en quelque sorte croquer cela, le croquer par la plume. Ce sont les voyages en zigzag, hein, qui vont connaître quand ils vont être publiés dans
1844.
Voilà, exactement. Ils vont connaître un succès assez foudroyant. Hein. C'est vraiment un succès, une sorte de mode. Il faut dire que c'est une écriture qui rentre vraiment dans les détails, qui arrive à animer le voyage alpin et le Mont Blanc tout particulier. Particulièrement
avec beaucoup d'humour,
comme une sorte d'enluminure. Et il y a la version dessinée, puisque on peut le dire que Töpffer est l'inventeur de la bande dessinée.
Ah oui, c'est un grand homme, Monsieur Crépin en particulier, qui se moque de ceux qui étaient les phrénologues, c'est-à-dire qui attachaient grande importance à la forme du crâne pour interpréter les tempéraments. Töpffer, à cet égard, il y a un site qui lui est consacré, est vraiment un personnage digne de beaucoup de considération.
C'est vraiment un des grands écrivains du Mont-Blanc, Töpffer. Et donc, très vite, le relais va être pris par l'invention du Mont-Blanc par les Anglais. Les Anglais vont être à la fois ceux qui vont conquérir tous les sommets.
Et
les Anglais, à partir, je dirais, des années 1810-1820, les Anglais sont extrêmement présents à Chamonix.
Et ce sont eux qui vont être les promoteurs des clubs alpins qui vont, à partir notamment la deuxième moitié du 19e siècle, Antoine de Beck joue un rôle fondamental dans ses relations entre une société et le Mont-Blanc.
Les Anglais vont être ceux qui vont inventer le Mont-Blanc puisqu'ils vont le rendre comme une sorte de symbole de l'Europe, un symbole de la montagne, de la beauté. C'est eux qui vont vraiment faire jouer cette association à travers un certain nombre de récits, de conquêtes. Ce sont des grands alpinistes. Hein. Walker, par exemple, est un de ces premiers grands alpinistes qui, dans les années 1860, va conquérir toute une série d'éperons. Les parois, certaines des plus difficiles qui entourent le Mont-Blanc vont être à ce moment-là vaincus par les frères Walker. Et d'autre part, ce sont eux qui vont en quelque sorte populariser le Mont-Blanc.
Il y avait un nom prédestiné, vous qui êtes randonneur, Antoine de Beck.
C'est sûr. Le grand instigateur de la popularité du Mont-Blanc, c'est Albert Smith. Lui, il monte au Mont-Blanc, il est fasciné par ce lieu, il y monte en 1851. Dans les années 1850, il va louer l'Egyptian Hall à Londres. Il va fabriquer un spectacle de son récit d'ascension avec tous les éléments du spectaculaire de l'époque, hein, puisqu'il arrive même à bruiter les avalanches, à bruiter les orages sur le Mont-Blanc. Il y a des chamois sur scène, il y a des animaux, il y a toute une série d'aventures et de mésaventures qui se passent pendant ce spectacle de l'ascension au Mont Blanc. Et c'est un succès incroyable. Il y a près de 200 000 personnes qui se précipitent pour assister à cette ascension du Mont Blanc sur scène pendant la première saison. Ça va du roi au simple badaud. C'est ça qui rend le Mont Blanc célèbre en Angleterre. À partir de ce moment-là, le Mont Blanc devient un spectacle.
Il y a la naissance de l'apparition des guides, puis il y a la naissance des clubs alpins, et d'abord, naturellement, le premier est britannique.
L'Alpine Club, qui est fondé en août 1857, hein, par toute une série de ces pionniers de l'alpinisme que sont les Anglais, et notamment, on y trouve plusieurs figures. Bon, évidemment, Whymper, hein, la grande figure avec ses escalades dans les Alpes, hein. Le vainqueur du Cervin.
L'illustrateur en même temps qu'alpiniste.
Oui, lui aussi dessinateur, imprimeur. Leslie Stephen, qui est un des premiers fondateurs de l'Alpine Club, qui n'est autre que le père de Virginia Woolf. Hein, qui, voilà, Virginia Woolf, d'ailleurs, va hériter d'une certaine manière de cette passion marcheuse. Virginia Woolf a beaucoup marché avec son père. On a là une véritable réinvention du Mont Blanc comme lieu de l'exploit. De l'exploit sportif, on peut dire que dans la deuxième moitié du 19e siècle, grâce à ce genre et grâce à ces exploits hein, qui se succèdent comme ça, tous les grands sommets alpins, toutes ces parois, toutes ces aiguilles, les Drues, les Grandes Jorasses, tout ça qui entoure le Mont Blanc vont être à ce moment-là conquis. L'apparition d'un véritable phénomène presque d'aventure, hein, où on peut dire qu'à ce moment-là, les deux grands terrains d'aventure de l'Europe, et notamment de la France et de l'Angleterre, hein, ce sont d'une part les colonies et d'autre part les Alpes et plus particulièrement le Mont Blanc.
En termes sociaux, on voit progressivement glisser la clientèle d'une certaine aristocratie, notamment anglaise, vers une bourgeoisie qui annonce déjà l'élargissement de la fréquentation que nous trouvons aujourd'hui où le critère de l'argent est devenu moins important, où ça coûte beaucoup moins cher qu'à l'époque, où vous expliquez pourquoi une expédition de ce type appelait évidemment une fortune rare. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Ça s'est démocratisé, ça c'est indéniable. Mais monter au Mont Blanc coûte encore un petit peu d'argent. Hein.
A coûté combien?
Environ 1 000 euros. Bon, c'est à la fois quelque chose qui est absolument accessible et en même temps, ce n'est pas absolument rien. Et évidemment, il ne faut pas que ce soit absolument rien, puisque monter au Mont-Blanc, c'est une véritable course d'escalade, une véritable course en montagne. Le guide est absolument nécessaire. Il y a tout un encadrement comme ça qui est impérieux. Sinon, il n'y aurait pas 5 ou 6 morts par an, mais beaucoup plus. Hein. Mais c'est vrai que l'histoire de l'alpinisme, c'était écrite à la fin du 19e siècle et jusqu'aux années 1950, autour quand même d'un certain élitisme, d'un certain aristocratisme de ceux qu'on pouvait appeler les ascensionnistes, les verticaux, par opposition évidemment aux randonneurs, aux marcheurs, à ceux qui visaient les cols plutôt que les sommets, qui étaient eux désignés comme de façon assez méprisante hein, par les élites du club alpin français hein, qui se fondent en 1874.
Transposition en quelque sorte dans l'espace d'une hiérarchie sociale.
Le peuple marche dans la montagne à vaches, tandis que les alpinistes atteignent les sommets et ces alpinistes se sont effectivement une élite à la fois sociale, une sorte de notabilité, on va dire, longtemps. Et le club alpin français a presque 20 ans de retard sur l'Alpine Club anglais, puisque le club alpin français se fonde qu'en 1874, mais sur des principes assez identiques, hein, d'une forme d'entre-soi un peu aristocratique et élitiste, où ce sont essentiellement des sportsmen hein, sur le modèle anglais, qui se regroupent des notables, un certain nombre d'intellectuels, de journalistes qui vont fonder comme ça et rester entre eux. On peut dire que jusque dans les années 1930-1950, le club alpin français est fondé sur une forme de recrutement extrêmement privilégié et une sorte de cooptation comme ça qui limite complètement le recrutement, à peu près 20 à 30 000 personnes.
Avec le sentiment de profiter d'une félicité spécifique, celle que donne la montagne parmi beaucoup de périls et d'inquiétudes. C'est ce qu'on retrouve dans cette interview du très grand alpiniste qui a été Gaston Rebuffat, dans le monde comme il va, le 6 juillet 1955. Restitution d'une ambiance.
Il y a donc un phénomène qui est assimilable à celui de l'amour. Il y a une sorte de passion de la montagne, de passion tout à fait gratuite. Et de quelle nature, car ça là échappe, je crois, peut-être à des profanes, de quelle nature est la joie que vous pouvez éprouver quand vous avez gravi une montagne très difficile. Est-ce que c'est seulement, disons, la satisfaction d'une réussite sportive?
Non, non, il y a cela. Mais si la montagne ne procurait que le plaisir de l'escalade, ce plaisir serait bien pauvre. Ce plaisir s'incorpore parmi bien d'autres plaisirs qui vont depuis simplement, même en hiver, quand on rêve à la montagne, on rêve aux ascensions que l'on va faire, on les prépare. Et bien, dès ce moment-là, voyez-vous, si je puis dire, la course est commencée. Bien avant qu'on s'encorde, bien avant qu'on grimpe une dalle ou une cheminée, la course est commencée. Dès ce moment-là, donc, la montagne nous procure déjà un certain nombre de joies. Il y a ensuite le fait de la voir, le fait d'estimer les conditions et de se sentir parent avec la montagne, non pas simplement un spectateur enthousiaste, mais de se sentir parent avec la neige, avec le vent d'ouest qui est le mauvais vent, avec le vent du nord qui est le bon vent, avec les nuages, avec un tas de choses. Il y a une sorte de parenté, si je puis dire, comme le paysan pour sa terre, comme quelqu'un qui, comme un menuisier avec le bois qu'il travaille.
Il y a une forme de panthéisme montagnard. Oui,
par exemple, quand un montagnard parle d'un beau granit bien chaud,
mais
n'est-ce pas? Il y a une sensation du toucher.
Mais oui, il y a un plaisir manuel.
Oui, il y a quelque chose de sensuel. Non, mais c'est ce que je disais, quelque chose de charnel dans la passion que vous éprouvez pour la montagne.
Il y a le plaisir aussi, il y a un plaisir, un des plaisirs que nous donne la montagne, c'est un plaisir cosmique et sidéral.
Monter au ciel.
Non, c'est vrai, à Paris, c'est vrai partout que le soleil se couche d'un côté et revient de l'autre. Mais à vrai dire, on s'en moque éperdument, on s'en rend pas compte, alors que quand on bivouac, adossé à la muraille, plus ou moins accroché à un piton, donc il y a un côté un peu sportif. Mais en dehors de cela, laissons-le de côté, c'est assez extraordinaire de voir la boule de feu qui s'en va d'un côté, qui tombe derrière l'horizon à l'ouest, par conséquent, qui est toute la nuit, toutes les nuits, les étoiles sont là. Si elles brillent, l'alpiniste est content. Si elles brillent trop crûment, trop fort, c'est qu'un orage est en marche. Si elle brille pas, ça nous est arrivé à Langer par exemple, eh bien, c'est que le lendemain il y aura un coup dur, c'est que il faudra, enfin, le mauvais temps sera là. Bon, supposons donc qu'il a fait beau, eh bien, durant la nuit, au tout petit matin, on guette vers l'est. On participe, si je puis dire, à ce grand voyage de la Terre autour du Soleil. On guette vers l'est les montagnes donc de l'Orient qui commencent à se colorer, et puis le Soleil qui est là et qui d'un coup généreusement vient nous réchauffer. Vient. C'est important, c'est capital pour nous.
Oui, oui.
Alors que ça ne l'est pas pour. Regardez, à l'heure actuelle, plus rien n'existe. Le froid n'existe plus. On a le chauffage central et les portes dessus. La lumière et les étoiles, ça n'existe plus. Il y a l'électricité. Il y a tellement de choses dont on se prive.
Dans ces propos de Gaston Rebuffat, Antoine de Bec, on est frappé de retrouver cette idée de panthéisme, de sacré, et en même temps de refus de ce que la société industrielle peut avoir de terriblement matériel.
C'est vrai qu'il y a là quelque chose qui est à la fois une sorte de permanence, hein, l'aspect sacré de la montagne, cette sorte de communion avec la nature qu'elle propose, et évidemment quelque chose qui va se renforcer au fur et à mesure que la société moderne va en quelque sorte s'éloigner des conditions naturelles et va fabriquer sa propre autonomie, hein, par rapport à la nature. À ce moment-là, évidemment, aller dans l'Alpe, aussi bien randonner, marcher que grimper, c'est retrouver cette communion avec la nature, et c'est en quelque sorte fuir la société moderne, fuir la temporalité, fuir l'artificialité de cette société d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui va être évidemment le moteur principal, aussi bien des randonneurs que des alpinistes, hein. Retrouver une authenticité par cette forme de communion avec la nature.
Dans le même temps, les géographes du côté de l'université, par exemple Élisée Reclus ou bien Raoul Blanchard, un élève du grand géographe Vidal de Lablache, viennent accompagner l'évolution de ces sensibilités du côté du scientifique. Mais Raoul Blanchard, qui était le grand auteur d'ouvrages sur la géographie des Alpes françaises et qui entraînait ses étudiants, bon gré mal gré, sac au dos sur les pentes du Mont-Blanc.
Les géographes vont en quelque sorte prolonger le travail scientifique qui a toujours été une des données de la conquête du Mont Blanc. Ce travail scientifique va se retrouver à plusieurs niveaux, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, où on continue à les glaciologues, les climatologues continuent à observer, à récupérer des carottes glaciaires pour les analyser. Et donc,
on est loin de Saussure qui lui avait un hygromètre à cheveux, c'est-à-dire qu'on regardait la manière dont les cheveux s'allongeaient plus ou moins et cela donnait le niveau de l'humidité dans l'atmosphère.
On peut dire qu'il y a une permanence de la recherche scientifique qui est passée comme ça de Saussure à Valo, puis aujourd'hui au CNRS qui est gestionnaire de l'Observatoire Valo depuis 1973 et qui continue à y mener des expériences.
On n'en a pas pour autant fait litière de ce qui peut apparaître de façon vraiment permanente comme la menace, le redoutable, le drame potentiel. De temps en temps, cela émerge. Par exemple, dans cette affaire qui avait tellement marqué les esprits en 1957, de la mort sur le Mont-Blanc de Vincent Don et Henri. Paris Match en était fait le reflet, évidemment, très, très attentif, dans les tonalités les plus dramatiques. Il y avait d'ailleurs de quoi.
Alors, on est un peu plus d'un an après le témoignage de Gaston Rébuffat, qui donnait cette impression d'une communion avec la nature, avec la montagne. Et la montagne peut se retourner de façon absolument dramatique.
Voilà la mort.
Et provoquer la mort de ces alpinistes. Et donc, c'est en...
Deux jeunes étudiants.
Jean-Vincent Don, un jeune étudiant parisien de 24 ans, et François Henri, un jeune étudiant belge de 22 ans, qui partent en décembre 56 au Mont-Blanc, une ascension hivernale, donc qui évidemment complique la situation, par la voie la plus difficile, en essayant de tracer une voie par l'éperon de la Brinva. Le mauvais temps va les surprendre là, il va les bloquer pendant 5 jours d'abord, et ce qui est assez étonnant, c'est que tout ça est observable à la jumelle ou à la longue vue depuis Chamonix, donc et qui va attirer peu à peu les journalistes. Près de 200 journalistes vont se masser comme ça à Chamonix pour observer en direct.
Non, sans voyeurisme.
C'est le rapport des alpinistes à la montagne qui est assez ambivalent. À la fois, il faut conquérir et il faut faire parler de cette conquête. Donc, il faut que la presse soit présente et elle a toujours accompagné d'une certaine manière les exploits des alpinistes. Et en même temps, évidemment, la presse attend le drame.
Et tout ça finit mal. Il y a drame.
Il y a drame, puisque le mauvais temps s'installe et perdure. Et donc, le drame se noue, en fait, autour de la décision de la compagnie des guides, qui refuse d'envoyer une caravane pour porter secours à ces deux jeunes gens qui sont décrits comme des inconscients, partir dans des conditions pareilles par une voie aussi difficile. Donc la compagnie des guides va refuser son secours et donc il va falloir qu'un guide de l'époque extrêmement célèbre, une des stars de l'alpinisme français qui est Lionel Terray, va mener une sorte de contre-caravane qui va partir à la recherche de Vincent Don et Henri. Cette caravane d'ailleurs va réussir, ils vont atteindre Vincent Don et Henri, mais au même moment, un hélicoptère profitant d'une accalmie est parti et cet hélicoptère va en fait se fracasser contre le Mont Blanc.
Donc il va falloir sauver.
Donc il y a deux drames en un d'une certaine façon et Lionel Terray décide de sauver les pilotes, ceux qui sont montés dans l'hélicoptère, en les amenant au refuge Valo et va placer ceux qu'il avait atteints, c'est-à-dire Vincent Don et Henri, dans la carlingue même de l'hélicoptère encore fumante, et va les laisser là avec quelques provisions. La caravane de Terray ne va pas pouvoir revenir les chercher, ils vont mourir. Et là encore, c'est quelque chose qui se fait toujours devant la presse. C'est vraiment un de ces événements majeurs du sport et de l'alpinisme, de ces drames, qui est suivi en direct par les Français.
Devant la presse, qui est incarnée en l'occurrence par un personnage dont la notoriété va ensuite grandir du côté du rugby, je veux dire Roger Coudert, qui va survoler en avion l'hélicoptère fracassé où sont les corps de Vincent Don et Henri pour une émission dans Paris vous parle, le 4 janvier 1957.
Descendons lentement. Le soleil illumine juste le sommet du Mont Blanc. C'est un spectacle absolument extraordinaire, grandiose. Nous perçons maintenant un nuage. Nous allons arriver au-dessus de l'épave. Ça y est, nous l'apercevons. J'aperçois l'épave exactement sous moi. Une traînée noire, une sorte de ferraille noire qui sort une masse blanche, et sous ce cercueil de fer et de neige reposent Vincent Don et Henri. J'enlève mon casque maintenant. Nous sommes plus qu'à 100 mètres au-dessus de l'épave. Guiron fait un signe de la main, lui qui a été le premier. Allez découvrir et maintenant le dernier. Allez saluer. Et pour la radiodiffusion télévision française et pour tous nos amis, j'ai enlevé mon casque et je salue. Je salue au-dessus de moi les deux malheureux, Guiron. Les deux malheureux, Guiron fait signe encore une fois de la main. Je salue Henri et Vincent Don qui sont morts dans la carlingue de l'hélicoptère et sous une masse de neige. Et maintenant, l'avion vire sur la gauche. Nous allons reprendre un peu de hauteur. Adieu Vincent Don. Adieu Henri.
C'était Roger Couder.
C'est intéressant d'ailleurs, puisque la sécurité du Mont Blanc, à chaque fois, va être relancée par des drames. Lionel Terray, qui avait mené cette caravane hors de la Compagnie des Guides, va être exclu par la Compagnie des Guides. Profitant de cette polémique, qui donc a ému la France entière, l'État va créer le peloton de gendarmerie de haute montagne quelques mois plus tard, en 1958, le célèbre PGHM, hein, qui va ensuite assurer la sécurité du Mont Blanc. Et on avait eu exactement le même phénomène en 1820, puisque c'est à la suite du premier drame mortel sur le Mont Blanc, hein, la première expédition qui tourne au drame, hein, avec plusieurs morts, trois guides qui meurent en 1820, que la Compagnie des Guides va se créer en 1823, hein, pour assurer véritablement la sécurité de ceux qui veulent monter et qui payent du coup cette montée au Mont Blanc. Donc à chaque fois, on retrouve ce même phénomène, hein, qui traverse l'histoire.
C'est récurrent, ouais, une belle permanence. Alors on peut décidément parler pour les périodes récentes d'une sorte de massification de désir du Mont Blanc. Et puis Antoine de Bec, avant que nous nous séparions, il fallait que nous allions ensemble sur les pentes du Mont Blanc. Et là, nous allons dans un refuge où nous entraîne Marie-Hélène Fraissé. C'est un reportage dans l'Échappée Belle de France Culture en juillet 1986. Marie-Hélène Fraissé qui a gravi pour notre station, pour notre radio, qui a gravi le Mont Blanc et qui nous restitue un dialogue avec un guide.
Bon, alors on est au refuge de Tête Rousse, on a pris un repas relativement plantureux, soupe, omelette au lard, salade de fruits. On va faire une provision d'eau, on va se rhabiller. Voilà. On a mis à sécher quelques vêtements dehors parce qu'on a pris tout de même une bonne suée là, dans ce qu'on appelle la grimpette. C'est un peu un euphémisme parce que ça grimpe assez dur, là, la grimpette de Tête Rousse.
Ouais. On est à 3167 mètres, on vient de 2300. Donc on a déjà fait une petite dénivelée. Et là, pour arriver au refuge du Goûter, qui est à 3008, on en a pour 2h30 maximum, en prenant notre temps. On va voir en fonction des conditions, mais c'est la partie, là, disons, la plus technique de toute la course. Après, bon, c'est de la marche, c'est différent. Mais c'est que ça reste quand même tout à fait viable. Hein. C'est pas... Donc on va voir. Là, je pense qu'il n'y aura pas de problème, vu comme tout le monde a marché.
Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils craquent sur une pente ?
Les gens quand ils craquent sur une pente, c'est souvent j'en peux plus, je vais mourir, laissez-moi là. Alors ça, laissez-moi là, ça on le retrouve très souvent. Ou bien, ils disent plus rien. Alors c'est carrément, là, ils sont là, ils s'assoient, ils disent plus rien, ils font plus rien, ils agissent plus, ils n'entendent plus ce qu'on leur dit. Il faut tout leur faire, leur mettre leur bonnet, leur mettre leurs gants, leur dire bon, je vais te faire ça, et puis on les tire.
Il y en a qui dorment aussi, ils s'endorment aussi.
Je n'ai encore pas vu ça, mais c'est possible. Ouais. Qui s'endorment à moitié, qui sont là, qui deviennent complètement. Qui sont dans le gaz. Ils sont dans un état second, et puis. Mais de toute façon, quand le gars arrive encore à dire j'en peux plus, c'est qu'il en peut encore. Quand il dit plus rien, on commence à se faire du souci.
Le commerce spécifique qu'entretient le guide avec l'amateur, avec l'alpiniste, est décidément au centre de ces relations que la société peut entretenir avec le Mont Blanc. Eh bien, nous nous en tiendrons là, Antoine de Bec. Votre livre s'appelle « La traversée des Alpes, essai d'histoire marchée » et paru tout récemment chez Gallimard en 2014 dans la prestigieuse Bibliothèque des Histoires que dirige Pierre Nora. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète, vous le savez, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous quitterons les montagnes, en tout cas les Alpes, pour aller vers l'Écosse. L'Écosse est-elle toujours rebelle ? Vous savez qu'un référendum se prépare qui pose des questions très intéressantes quant à l'unité du Royaume-Uni. et je recevrai pour en parler François-Charles Mougel. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée par Patrick Molinier, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, à la prise de son Alexandre Dang, à la discothèque Nathalie Rouvillain et Gwen Michel pour les Archivina. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Dominique Rousset pour l'économie en question et aussi, j'imagine, en réponse.